Philosophie de la matière par le père Philippe Raymond, le 24 mai 1989.
Nous allons continuer cette philosophie de la matière. N'oublions jamais, hein, nous avons ce regard philosophique sur la matière, source de toute corruptibilité. Source de tout le fieri. Et pour l'homme, fondamentalement, au point de vue de la mort. Chaque fois, la mort pénètre dans la communauté. Il faut avoir un regard philosophique, un regard théologique, un regard mystique. N'oublions pas nos trois sagesses, quoi. Il faut les vivre. Et on les vit quand on est en face de l'événement. Vous vous souvenez, pour la théologie mystique, avec frère Stéphane, on n'était peut-être pas là, c'était pas les mêmes. Non, notre théologie mystique nous donne sur la mort un regard d'amour, de victoire. Christ est victorieux de la mort. C'est ça qu'on doit regarder. Donc on assume la mort. On l'assume divinement. On n'en vit pas au niveau psychologique. On l'assume. Pour nous et pour les autres. Parce que ce sont nos frères. Il y a un regard théologique de la mort, théologie scientifique. Comment la personne humaine peut-elle mourir? La mort, conséquence du péché. Il n'y aurait pas eu la mort s'il n'y avait pas eu le péché. Donc, c'est la marque du péché. C'est pour ça que c'est toujours très éprouvant. Et la mort au plan philosophique. En fait, le philosophe se tait devant la mort. Il se tait. Il ne peut pas expliquer comment l'homme, qui est une personne, métaphysiquement parlant, peut mourir. Mais c'est contraire à l'esprit. C'est un peu révoltant. Ça a l'air d'être le triomphe de la matière. Mais le théologien donne une raison, conséquence du péché. Au point de vue philosophique, la mort est révoltante. Au point de vue philosophique, la mort est un scandale. Parce que c'est la cause matérielle. Momentanément, mais qui est victorieuse de fait, de facto, pour nous. Je crois que c'est important pour nous de vivre les événements que Dieu nous demande de vivre, de les vivre toujours dans la lumière des trois sagesses. Évidemment, on la vit pleinement dans la lumière de sagesse mystique. Mais la sagesse mystique ne supprime pas les deux autres regards. Et même permet de les vivre intensément. Parce que si la sagesse mystique supprimait les deux autres regards, ce serait, vous voyez, comme si on vivait déjà du ciel. Nous vivons du ciel, fine pointe. Nous sommes dans la foi. Théologie mystique, c'est la victoire de l'amour. Théologie scientifique, c'est la foi. Et la philosophie, c'est ce qui est là, présent, ce qui existe. La mort existe. Et la mort, c'est une rupture terrible pour notre sensibilité. Puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprendre. Dans le monde sensible, tout peut être repris puisqu'on est dans la relativité. Et la mort met un certain absolu dans le monde sensible. Un absolu négatif. Oui. Ça explique le pourquoi de la modernité. Le primat de la négation. Et le primat de la négation est commandé par la mort. Là, c'est bien évident. Et nous devons le vivre. On n'a pas le droit de dire que « Ah non, c'est pas fait pour moi. » Nous devons. C'est pour ça que Dieu permet, vous voyez. Et Dieu, non seulement le permet, mais de fait, c'est une volonté expresse de Dieu que nous vivions de cette manière si forte. C'est vrai, ces quatre morts successives. Et c'est quelque chose de grand. On peut dire mystiquement que c'est une bénédiction de Dieu. Mais philosophiquement, je ne peux pas le dire. Parce que c'est rude à porter. Je me souviens, avec mes psychanalystes freudiens, c'était toujours là. Ils attendaient la réaction. Alors ils le faisaient un peu comme des psychanalystes. C'était pas toujours très, très normal. En disant que c'est toujours en face de la mort que voit les réactions les plus étonnantes de l'homme. Parce que c'est vrai, nous disons-nous philosophiquement que c'est insupportable. Et je comprends très bien. C'est insupportable. On ne peut pas rester devant la mort. On ne peut pas. Et pourtant, il faut que notre philosophie, notre sagesse philosophique, regarde. Quand c'est proche d'un frère, c'est qu'un merveilleux dans une famille religieuse, c'est que la mort tue la famille. C'est à l'intérieur de la famille, philosophiquement, que vous regardez ce que c'est que la mort. C'est pas l'hôpital, non. C'est familial, l'hôpital. Regardez comment on vit la mort à l'hôpital. C'est pas un domaine politique, la mort. En faisant que la naissance et la mort ne sont plus, familiales. Donc c'est un mystère de famille. Et ça demande d'être vécu familial, d'une façon familiale. Et dans la vie religieuse, la mort est quelque chose qui brise la famille. Selon le conditionnement humain, c'est sûr. Et en même temps, il n'y a que dans la vie religieuse qu'on peut vivre familiale, d'une façon familiale, la mort, et aller jusqu'au bout du point de vue divin. C'est pour ça que c'est quelque chose de si grand pour nous. Et ça doit être quelque chose de si grand. Nos morts sont présents et restent présents. Ils sont quand même morts par rapport à ce que représente la famille, le conditionnement familial de la vie religieuse. C'est pas un conditionnement de peuple, c'est le conditionnement familial. Et l'infini. Nous n'avons pas touché du tout l'infini. et c'est pourtant bien important. Et le livre 4, le lieu. Alors, je dis un petit mot sur l'infini. Il y aurait toute une topique à faire sur l'infini qui serait très, très intéressante à faire. L'infini à Byron, c'est-à-dire ce où il n'y a pas de limite, la négation de la limite. L'infini, c'est un terme négatif. Alors, il y a 202b30 où Aristote parle de l'opinion des anciens, chapitre 4 dans le livre 3. Difficulté sur son existence. Alors, Aristote montre d'une manière très nette qu'il n'y a pas d'infini donné en acte. Alors, c'est ça qui est très important à voir. Déterminisme. Il y a toujours une source. puissance qui se fonde sur la matière, est-ce qu'il peut exister du côté quantitatif?
Posez-vous la question.
Et en un autre sens, non. séparation des hommes comme dans la division des grandeurs. Donc voyez ce que Aristote veut montrer ici. C'est empêcher d'avoir une conception univoque de l'infini. Pour nous, c'est assez facile de le comprendre dès qu'on a fait la métaphysique de l'âme et de la puissance. Dès qu'on a fait la métaphysique de l'âme et de la puissance, on comprend très bien, puisque l'infini est, se fonde sur la matière. Par le fait même, tout ce qui se fonde sur la matière, il y aura une modalité infinie possible. L'infini comme tel n'existe pas, puisqu'il est en puissance, l'être en puissance. Il n'existe qu'en fonction de l'actualisation de la puissance. Dans la mesure où il est divisé. La grandeur n'existe, elle est divisible, n'existe que dans la mesure où elle est divisée.
Et quelle est la différence entre le possible de la matière et le possible de la quantité?
C'est que le possible de la matière est un possible substantiel, radical et infini. Le possible de la quantité est un possible qui est actué par la mensuration. Oui. C'est assez facile à comprendre. Qu'est-ce qui actue possible? C'est le possible de la matière. C'est un possible substantiel. Constante de l'idéalisme. Comme la logique, il y a deux points. rien d'autre. Ah, il y a le possible artistique. On va l'oublier. Le possible artistique. Le possible de... qui est actué par la réalisation artistique. Le travail. Le travail artistique actue. Une matière. Donc vous avez trois portes à l'idéalisme.
Dans le nombre et que du côté
création, une quantité quelconque puisse être toujours dépassée. Mais pour les grandeurs, c'est le contraire. Dans le sens de la diminution, on dépasse une grandeur quelconque. Mais dans le sens de l'augmentation, il n'y a pas de grandeur infinie. La raison en est que l'un est indivisible, quel qu'il soit. Par exemple, l'homme est un homme et non plusieurs. Or, le nombre est fait de plusieurs unités qui forment une quantité. Par suite, il faut s'arrêter à l'indivisible. Car 2 et 3 sont des noms déduits. Et de même pour chacun des autres nombres. Mais dans le sens de l'augmentation, on peut toujours en concevoir. C'est que la dichotomie de la grandeur sont en nombre infini. Alors, le nombre est infini en puissance et non en acte. Mais le nombre considéré peut dépasser toute quantité déterminée. Mais dans la dichotomie, il ne s'agit pas du nombre séparé. Et l'infinité n'est pas en permanence, mais en devenir, comme le temps est le nombre du temps. Mais pour les grandeurs, c'est le contraire. Car le continu est divisé en infini. Il n'y a pas d'infini dans le sens de l'augmentation. En effet, ce qui peut être en acte est la mesure de ce qui peut être en puissance. Ainsi, puisqu'il n'y a pas de grandeur sensible qui soit infinie, il ne peut y avoir de grandeur qui dépasse toute grandeur déterminée. Car ce serait une chose plus grande que le ciel. Le ciel est à la mesure, en acte. L'infini, d'autre part, n'est pas le même dans la grandeur, le mouvement et le temps, comme y constituant une nature unique, mais simplement le terme postérieur se détermine d'après le terme antérieur. Ainsi, le mouvement est infini par l'intermédiaire de la grandeur, selon laquelle il y a mouvement ou altération ou croissement, comme le temps est infini par le mouvement. Pour le moment, assurément, nous utilisons ces idées, mais plus tard, nous dirons ce qu'elles sont chacune et pourquoi toute grandeur est divisible en grandeur. Y a-t-il une propriété d'infini? C'est la question. Dans la mesure où l'infini n'existe qu'en puissance, il n'a pas de propriété. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de science de l'infini. C'est tout ça qui est sous-jacent. Y a-t-il une science de l'infini? Et je crois que le jour où l'infini est devenu objet de science, on est entré dans la dialectique. Ça, ce serait à montrer. Et ceci, c'est la porte par le jugement de sagesse. Parce que le jour où on a considéré l'infini, non plus comme ce qui est en puissance, mais ce qui qualifie l'acte, il devient, au plan théologique, objet de contemplation. Et si on a ici ce jugement de sagesse, on fait de l'infini une réalité. Et cette réalité ne peut plus être étudiée que dialectiquement. C'est pour ça que la dialectique hegélienne ne peut venir et provenir que de la théologie, d'un jugement de sagesse. Et c'est là où on voit l'opposition la plus magistrale entre Hegel et Aristote. C'est-à-dire l'infini. Hippolyte dit que c'est l'infini qui est l'âme de la dialectique. Et je crois qu'il a raison. La dialectique présuppose l'infini.
Oui. Mais en mathématiques, l'infini a des propriétés.
Oui. Attention, des propriétés dans une science mathématique.
Voilà. Est-ce est-ce que justement il n'est pas...
Moi je parle ici en plein philosophique.
Est-ce que justement, dans la mesure où depuis Platon, les mathématiques et la réalité font une correspondance, est-ce que justement ça n'entraîne pas, quand on confond un peu les niveaux, on fait de l'infini quelque chose d'objectif et donc avec des propriétés.
Oui, mais attention, les propriétés mathématiques sont totalement différentes des propriétés telles qu'on en fait ici. Oui. La propriété au plan philosophique implique le jugement d'existence. La propriété au niveau mathématique ne l'implique pas. Oui. Donc, c'est des propriétés du possible.
Je veux dire, dans une perspective platonicienne.
C'est le problème de la science physique, ça. C'est le problème de la science physique qui considère qu'en fait, quand elle parle de l'infini, elle parle de quelque chose de réel.
Oui. Oui. Alors qu'il n'y a pas quelque chose de réel. C'est pour ça que je dis que c'est là où se situe le mieux l'opposition entre Hegel et Aristote. C'est le problème de l'infini. Aristote accepte la méthode dialectique. Au niveau de l'opinion. Donc, au niveau méthode, c'est très intéressant de voir comment la dialectique a pris possession de l'analogie. Mais, position parfaite au niveau d'infini. Je crois. Bon. Je passe tout de suite maintenant. La cause formelle est représente, puisque ce qui est nul implique une détermination. La cause exemplaire et la cause finale. Voilà les deux causalités. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette philosophie du lieu telle qu'Aristote l'attend ?